Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h42, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch.
Bonjour Martin Hirsch.
Bonjour Alba Vassera.
Et vous êtes en direct avec nous depuis le siège de l'APHP Assistance Publique Hôpitaux de Paris parce qu'immédiatement après cette interview, vous allez présider une réunion d'urgence. Alors pourquoi et avec qui ?
Tous les matins, tous les soirs, nous tenons des réunions de crise dans une urgence qui est devenue assez permanente avec les responsables des hôpitaux et les directeurs médicaux de crise qu'on a mis en place pendant la première vague pour coordonner le travail de l'ensemble de leurs collègues, l'ensemble de leurs équipes pour faire en sorte que l'hôpital puisse concentrer tous ses moyens sur les difficultés redoutables auxquelles nous devons faire face.
Redoutables ? C'est comme ça que vous décririez la situation ?
Absolument redoutable, et si ça vous étonne, il faut y revenir un instant. Il y a eu la perception depuis quelques mois que soit la deuxième vague n'existait pas, soit que c'était une vaguelette. La réalité est l'inverse. Il est possible que la deuxième vague soit pire que la première. Vous savez, c'est un peu comme le tsunami, il y a un premier mouvement, puis l'eau se retire loin, les gens vont sur la plage en pensant que c'est fini, et puis tout d'un coup, il y a la lame de fond. La deuxième vague peut se caractériser comme étant une lame de fond. Je pense qu'il y a certaines régions déjà qui anticipent qu'ils seront à un niveau supérieur à celui qu'ils ont connu début avril au moment du pic. Et pour le moment, personne, pas un seul expert, pas un seul épidémiologiste, pas un seul modélisateur, pas un seul responsable, peut vous dire quand il y aura le pic. Le pic, ça veut dire le moment où ça commence à redescendre. Pour l'instant, nous sommes que dans un mouvement ascendant, dans de nombreuses régions, et qui rend effectivement les choses redoutables. Et j'espère que les auditeurs comprennent le mot redoutable. Redoutable, ça n'est pas redoutable pour les hôpitaux, c'est redoutable pour chacun d'entre nous. C'est redoutable pour celui qui ne comprend pas que l'idée, quand il y a couvre-feu, c'est pas on se couche tôt le soir du couvre-feu et on fait le maximum dans la journée pour compenser le fait qu'on restreint ses interactions sociales après 21h, c'est que spontanément on les restreint de 6h du matin à 21h et que le soir c'est obligatoire.
Une discipline.
Mais ça doit être du même ordre.
Une discipline absolue, c'est ça que vous demandez à nos auditeurs?
Je pense que nos auditeurs, ce qu'ils nous demandent à nous, c'est qu'il y ait le moins de morts possible, qu'il y ait le moins de malades possible, que leurs proches ne soient pas touchés. C'est ça ce qu'ils demandent. Une partie de cette réponse est, et effectivement, je m'exprime comme tous les responsables qui s'expriment de la main, une partie de cette réponse est entre nos mains. Soit spontanée, soit obligée.
Revenons sur la situation actuelle. Là, aujourd'hui, vous nous dites que l'hôpital est déjà débordé.
Je dis que l'hôpital est déjà en difficulté, bien évidemment.
C'est-à-dire plus d'admissions en réanimation ?
Alors, d'abord, dans un hôpital, il n'y a pas que les réanimations.
Tout à fait.
Mais bien sûr qu'il y a plus d'admissions en réanimation. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour l'Île-de-France uniquement. Pour l'Île-de-France, le nombre d'entrées moyennes il y a 15 jours était à peu près 40 patients qui rentraient chaque jour en réanimation. Aujourd'hui, on est au double, c'est-à-dire quelque part entre 70 et 90 chaque jour. Ça veut dire que l'hôpital, aujourd'hui, il tourne déjà à plein, alors que nous savons que nous aurons plus de malades à prendre en charge. Mais l'hôpital tourne à plein. Tout ce qu'on dit depuis des semaines est, il s'avère, vrai, exact, vérifié. C'est-à-dire que depuis des semaines, on explique qu'on est confronté au fait d'une montée pour l'instant inexorable du nombre de patients atteints de Covid. On répète que le Covid n'a pas changé et que tout d'un coup il n'est pas devenu un virus inoffensif, mais qu'il a le même caractère de gravité.
Ça veut dire, Martin,
et que par ailleurs, je termine juste le raisonnement une seule seconde, et que pendant ce même moment, on doit prendre en charge toute une série de patients avec d'autres pathologies, dont certains sont dans des situations plus graves, parce que pendant le printemps, à la fois nous avions des difficultés, et eux ne venaient pas à l'hôpital.
Je vous sens agacé. Ça veut dire que vous n'avez pas été entendu?
Non, je suis pas agacé. Je pense que l'agacement est d'abord une notion superficielle. J'essaye de profiter de ces minutes d'antenne pour convaincre que ce n'est pas un discours de circonstance, que ce n'est pas aujourd'hui, 23 octobre, le lendemain du jour où le Premier ministre a dit que la situation était grave, qu'on invente un discours pour ça. J'essaye d'utiliser ces minutes d'antenne pour vous dire que ce que nous disons aujourd'hui repose sur ce que nous observons, sur ce que nous vivons, et que la force de conviction, j'ai toujours pensé que jusqu'à son dernier souffle, on pouvait convaincre, y compris les plus réticents et les plus sceptiques. Et je ne suis pas agacé, mais je suis parfaitement conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y ont pas cru. Il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que ça allait passer tout seul, que nous surdramatisions, que nous exagérions. Et c'est très humain de comprendre quoi, que tant qu'on n'a pas vu les images, on pense que ça n'existe pas. Bah, c'est comme le loup du Gévaudan, si on ne l'a pas vu passer, si on n'a pas vu sa photo, c'est comme le Yeti, on ne l'a pas vu. Là, le virus, il est invisible, les malades sont déjà visibles, les malades sont déjà là.
Qui sont les malades, Martin Hirsch? Quel profil en ce moment avez-vous dans vos services? On entend dire qu'il y a autant de jeunes, entre guillemets, que de personnes âgées.
Alors ça dépend ce qu'on appelle jeunes ou personnes âgées. Si on explique que là, il y a 50% des malades en réanimation qui ont moins de 61 ou 62 ans, 50% qui ont plus de 62 ans. Je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs aujourd'hui qui, autour de 62 ans, à 5 ans près, se considèrent pas comme des vieux perdus pour la cause. Donc, ils ont envie... Donc, qui on a comme malade dans nos réanimations? Dans nos réanimations, on a comme malade un certain nombre de jeunes qui peuvent avoir des facteurs de risque. On peut avoir le père qui a été contaminé par... son enfant pendant la période des dernières semaines où le virus circulait beaucoup chez les jeunes. On peut avoir le père de ce père qui a reçu peu de visites, qui était isolé, qui faisait attention, qui avait 77 ans, qui faisait attention, mais quand même son fils âgé d'une cinquantaine d'années est venu le voir, et son fils âgé d'une cinquantaine d'années avait lui-même des enfants qui avaient pendant le mois de septembre pas fait très attention. Voilà, c'est ce genre
dans
de personnes que nous avons dans nos réanimations.
Vous nous parlez de la famille, on comprend que la famille est un cluster. Est-ce que dans les couples aussi, les parents?
Alors, on peut avoir des couples, je n'ai pas d'exemple sous l'esprit aujourd'hui de ceux qui sont présents en réanimation, mais effectivement, on peut se contaminer chez soi, on peut se contaminer avec ses collègues au moment où on enlève le masque à la cafétéria. Ah, c'est pour ça qu'il faut restreindre toutes ces occasions de contamination. Et encore une fois, quand on restreint ces occasions de contamination, quand on fait particulièrement attention, quand on pense que le virus est redoutable et qu'il est partout, ce qui est le cas. Si je fais juste une petite parenthèse, je pense que tous les jours, on égrène le nombre de cas positifs, vous savez, aux environs de 30 000.
Oui.
La réalité est, je pense que vous en avez conscience, bien supérieure. Ça, c'est ce qu'on dépiste. Il y a beaucoup de personnes positives, contaminantes, qui sont dans la rue sans le savoir et sans que personne ne le sache. Probablement trois fois plus.
Martin Hirsch, quel est l'état des forces des personnels soignants? Est-ce que vous leur avez demandé de renoncer à leurs vacances?
Mais bien sûr qu'on a demandé s'ils pouvaient renoncer à tout ou partie de leurs vacances. Bien sûr que certains l'ont fait, que pour d'autres, on a préféré qu'ils prennent des vacances maintenant, avant ce mois de novembre redoutable. L'état des soignants est un état de personnes qui donne encore... au-delà des limites normales de ce qu'on demande à quelqu'un au travail, bien sûr.
Je voulais vous demander aussi, est-ce qu'il y a des déprogrammations? Et pardon de vous poser la question aussi directement, mais on se dit qu'il y a sans doute un choix. On n'a pas la même priorité face à une tumeur au cerveau ou à une prothèse de hanche en ce moment. Est-ce que vous faites des tris?
Alors ça, ce n'est pas de faire des tris. Est-ce qu'on fait des priorisation, des priorités, oui. Les médecins, la déprogrammation, nous l'avons annoncée, je pense, il y a 15 jours, 3 semaines, qu'elle commençait à devenir inéluctable. Elle est une réalité, elle va devoir augmenter, et ça n'est pas que dans les hôpitaux parisiens. Il y a beaucoup de régions françaises qui déprogramment beaucoup. Je pense que si vous vous interrogez mes collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous verrez des programmations extrêmement fortes. Et ce qu'on a répété à chaque fois, c'est vis-à-vis des malades, les médecins se réunissent entre eux pour examiner les dossiers des patients qu'ils ont convoqués la semaine suivante et déterminent ceux pour lesquels on peut considérer qu'ils peuvent être reportés de 15 jours ou de 3 semaines. Et c'est pour ça que le message, c'est votre médecin qui décide ce qu'il en est. C'est pas vous-même qui pouvez apprécier, parce que on en tient compte avec des critères médicaux.
Est-ce que vous en êtes déjà à envisager des transferts entre hôpitaux, par région, entre régions?
Alors, c'est une question qui se pose dans des termes très très différents du printemps, où il y avait deux ou trois régions plus impactées que les autres. Donc aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la région Île-de-France, on n'imagine pas être conduit à transférer dans les mêmes conditions qu'on l'a fait au printemps. Et je vous rappelle qu'au printemps, on a fait ces transferts au moment où on approchait du pic et où ça nous permettait de passer, d'amorcer la décrue sans être passé par un moment de débordement. Donc là, aujourd'hui, c'est plutôt dans la réponse, dans les comportements, dans les mesures restrictives, dans la lutte contre la circulation du virus, qu'on peut protéger la santé des Français et leur accès à l'hôpital, quelle que soit la gravité de leur maladie, quelle que soit la maladie, Covid ou autre maladie. Protégez-vous, protégez-vous, faites très attention. Si j'ai un message à vous dire, le virus est redoutable. Le virus est encore plus présent que vous ne le pensez aujourd'hui et on peut l'empêcher de circuler, mais en faisant beaucoup plus attention que ce qu'on fait aujourd'hui.
Martin Hirsch, vous êtes aussi le président de l'Institut de l'Engagement. Vous avez recruté des jeunes après le service civique ou qui ont un engagement associatif. Vous avez créé une promotion, les engagés du Covid. C'est une très belle initiative. Qu'est-ce qu'ils font rapidement ?
Merci beaucoup. C'est tous ces personnes qui, pendant le printemps, se sont révélées, soit pour les ingénieurs, pour travailler, aider les hôpitaux à maîtriser les flux d'air contaminés dans les hôpitaux, soit des avocats qui se sont mis à venir faire du bio-nettoyage dans les hôpitaux, soit des jeunes qui ont créé des bandes dessinées pour expliquer aux enfants ce qu'était le virus, coco-le-virus, pour parler du Covid, etc. Et nous les soutenons dans leurs projets. C'est mon activité, si je puis dire, bénévole et engagée. Mais ce mouvement d'engagement de la population en France a été tellement formidable qu'on a envie qu'il continue. Et il y a eu des initiatives magnifiques pendant cette période. Elles peuvent continuer. Merci à tous les Français, à tous ceux qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'avoir une blouse blanche pour pouvoir aider dans ces périodes compliquées.
Et on voulait le saluer. Merci beaucoup à vous, Martin Hirsch, et merci à Spencer Clairefeuille pour avoir assuré la liaison technique.
Le directeur général de l'assistance publique.